Donc ce soir, c'est amour et voyage en temps. Alors, j'espère que chacun a déjà ici vécu une expérience amoureuse. Je pense que ça va être un début très triste. Donc l'amour, c'est avant tout une attente, parce que l'amour qu'il a ressenti, il n'est pas forcément payé de retour. Et donc, le propre du sentiment amoureux, c'est déjà d'être positionné à l'égard du futur et d'être dirigé vers l'avenir, ou plutôt vers des avenirs, puisque l'amour, en tant que sentiment, met en œuvre l'imagination, c'est-à-dire l'une des facultés majeures de la conscience humaine. Et du fait du sentiment amoureux et de l'attente de la réalisation ou pas de ce sentiment, je projette différents futurs dans lequel l'amour se réalise, dans lequel il se réalise d'une façon que je n'avais pas attendue. Enfin, l'amour, en tant que sentiment, privilégie une direction temporelle qui est l'avenir, ou plutôt les avenirs qu'on possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'amour, en tant que sentiment et en tant que sanction, puisque cet amour peut être payé de retour ou pas, il suppose une attente, une déception et même une influence sur le langage. Par exemple, le fait de déclarer son amour, c'est le fait de privilégier une actualisation du futur par rapport à d'autres. Si je déclare mon amour et qu'il est payé de retour, qu'il est réciproque, j'élimine tout le futur qui serait décevant, et je réalise, tant mieux. Hélas, si cet amour n'est pas payé de retour, eh bien, mes futurs heureux s'effondrent. Ce qui fait que, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a l'abbé Dinoir, qui était un abbé de cour, qui était à la cour de Louis XV, avait écrit un très beau traité qui s'appelle « L'art de se taire » pour expliquer que les silences ont parfois du sens et que l'un des principaux silences à sens, c'est le silence de l'amoureux. Parce que il se tait, mais ce silence dit des choses, il dit des craintes, etc. Il dit des attentes et des déceptions possibles à l'égard de l'avenir. Donc, dans un premier temps, l'amour par rapport au temps, c'est toujours un amour dirigé vers le futur, dirigé vers l'avenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, dans cette attente, le fait que l'objet de son amour est parfois plus présent quand il n'est pas là. C'est-à-dire que je suis parfois plus comblé par la personne amoureuse quand elle va venir, c'est-à-dire quand elle se situe dans le futur et non pas dans le présent quand elle est là. Par exemple, si la personne dont je suis amoureux est là, ben, je peux m'engueuler avec elle. Ça, c'est l'actualisation dans le présent. Tandis que dans le futur, le fait de son absence la rend présente de manière idéale. Bon, il y a un exemple célèbre qui est l'exemple du café chez Sartre, dans L'être et le néant, où il dit « Je donne rendez-vous à la personne que j'aime à midi. J'arrive à midi moins 5. La personne n'est pas là. Mais c'est normal, puisque j'ai donné rendez-vous à midi, son absence est simplement absence, elle n'est pas là. Bon. Arrive midi, et je regarde, puisqu'elle n'est pas là, je regarde le café, je regarde les fonds de verre, je regarde les clients, tout ça est neutre, c'est juste le café. Bon. Arrive midi, donc le temps s'actualise en présent, la personne n'est pas là, et tout à coup la qualité du présent va être modifiée du fait de son absence, parce qu'elle aurait dû être là. Et donc, l'absence de la personne devient présence. Tout à coup, je m'inquiète, pourquoi est-elle pas là, etc. Donc, la nature même de l'absence a changé du fait qu'on passe de l'avenir, du futur, au présent. Et puis maintenant, il est midi et quart, midi 20, midi 30 maintenant, et la personne n'est toujours pas là. Et l'absence de cette personne la rend de plus en plus présente. C'est-à-dire que non seulement je m'inquiète, je regarde, etc., mais je vais repositionner tout mon présent en fonction de l'absence de la personne. C'est-à-dire que les clients qui étaient là, qui étaient juste simplement des clients, auxquels je ne faisais pas attention, sont peut-être des obstacles, j'interprète le présent, peut-être qu'elle n'a pas vu que c'était le monsieur qui l'a. La plante verte qui était là est aussi un obstacle, au fait que, autrement dit, j'invente dans le présent une explication d'un avenir qui ne s'est pas réalisé et par rapport à un passé qui est de plus en plus lourd, son absence. Bon. Autrement dit, pour résumer tout ça, dans un premier temps, la relation amoureuse est une relation qui est naturellement portée vers l'avenir et qui s'actualise, qui se réalise selon différentes modalités dans le présent. Et cette relation amoureuse se nourrit largement de l'absence de la personne aimée, absence qui est présente. Bon, jusque-là, on est dans des cas de figure normaux, qui fait que la relation amour-temps pose aucun problème, c'est ce que tout le monde dit, ça ne pose pas de problème. Bon, évidemment, la difficulté va se poser si je pense ma relation amoureuse par rapport au passé. On peut imaginer des cas où je tombe en effet amoureux d'une personne passée. Après tout, je peux être séduit par Marilyn Monroe, qui est morte, et pourtant son potentiel de séduction fonctionne toujours. Ça, c'est l'une des nouveautés des arts issus de la modernité. Je peux être charmé par une voix qui n'est plus là, encore qui n'est plus là, etc. Mais bon, c'est pas ce que dit du tout le problème du voyage dans le temps, c'est vivre une relation amoureuse avec une personne qui, clairement, appartient au passé. Donc là, le problème. Bon. Alors déjà, d'un point de vue strictement logique, en fait, il s'agit d'un phénomène d'inversion qui est que je porte ma relation au futur vers le passé. On l'a vu, l'amour, c'est d'abord une relation en rapport au passé. En fait, je vais déplacer cette relation de manière tout à fait parallèle pour la porter dans le passé. Bon, on trouve ça chez Aristote, lorsqu'il explique dans l'interprétation neuve, on en parlait hier avec Étienne Klein, le passé est indécidable. Imaginons que j'envisage une bataille navale. Dès lors que la bataille navale a lieu demain, la bataille navale a lieu et n'a pas lieu demain dans le futur, et ce n'est que quand arrivera le moment présent que la bataille navale aura lieu ou n'aura pas lieu. Bon, tout le monde dit, le futur, du fait qu'il n'est pas limité, du fait qu'il n'est pas restrictif, ben, permet une certaine liberté, je peux tout envisager. Bon. Donc, pensez une relation amoureuse avec une personne passée, en se projetant par rapport à ma relation future, je ne sais pas si c'est clair, supposons que je vais renverser ce phénomène et que l'indécidable qui se porte en général vers le futur va être porté vers le passé. Autrement dit, le passé est de nouveau possible d'exploration. Le passé, tout comme le futur, va pouvoir permettre différentes possibilités, et c'est alors qu'intervient dans la science-fiction le voyage dans le temps. Bon, alors, pour parler des récits de voyage dans le temps, il n'est pas du tout question de faire une liste de textes de viser à l'exhaustivité. Je vous propose d'analyser différents types de relations amoureuses dans un voyage dans le temps qui a lieu dans le passé, à partir d'une littérature qui commence dans les années 70. Bon. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par un roman français qui s'appelle « Le voyageur des siècles ». Alors, « Le voyageur des siècles » est écrit en 1951, il est pensé dans un premier temps en 1951 par Noël Noël, qui est un homme, qui est un acteur, surtout un grand acteur du cinéma français. Il le pense en 1951 et il va le réaliser en 1971, pour des tas de raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature et la science-fiction. C'est que en 51, Noël Noël veut en faire un film avec son ami Jean Dreville, ça ne marche pas, etc. Et en 1971, Noël Noël décide d'écrire le livre et, coup de chance, Dreville et lui vont le réaliser pour la télévision. Il va donc y avoir un roman et une série télé. Deux projets qui sont menés en même temps par les mêmes individus, mais qui n'ont pas la même fin. C'est-à-dire que la fin de la série télé est sombre, très sombre même. La fin du roman est sombre. Mais pour la bibliothèque verte, c'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que ça a été édulcoré par rapport au même projet qui était mené dans la série, vous le disiez, mais ça reste tout de même assez fort et assez fragile. Alors, l'argument, il est très audacieux pour l'époque, hein, sachant qu'il a d'abord été pensé en 51. Un jour, il y a un scientifique de 1971 qui reçoit la visite d'un jeune homme, qui présente des traits physiques pourraient être ceux de la famille, et de fait, c'est son descendant, Philippe d'Aubigné, hein, donc un jeune homme qui vient du futur, à bord d'une chronosphère, et qui va proposer à son oncle, déjà une création d'une boucle temporelle, il va lui proposer de voyager dans le temps avec lui, puisque grâce à son oncle, la technologie du futur a pu mener au voyage dans le temps. Donc, une espèce de boucle causale, c'est le descendant qui explique à son oncle qu'il est dans la bonne voie, la preuve, il est là. Bon, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans un premier temps examiner un miroir, invention du futur, là aussi, de Philippe, mais hérité du grand-oncle. Et dans ce miroir, on peut observer des scènes du passé. Et Philippe d'Aubigné, jeune homme intelligent, beau, etc., est tombé amoureux de son ancêtre Catherine d'Aubigné, qui, en 1789, va se faire guillotiner. Donc, ni une ni deux, chronosphère, et on part en 1788, un an avant, de manière à expliquer à Catherine qu'il faut qu'elle fuit la France, qu'elle se réfugie en Angleterre, parce qu'autrement elle va mourir. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils s'y prennent d'une manière ou d'une autre, Catherine n'y croit pas, elle est en plus même pas amoureuse de lui. C'est vraiment, elle est curieuse, n'oubliez pas qu'elle est publiée en bibliothèque verte, hein, quand même assez surprenant. Hein. Elle n'est pas amoureuse de lui, vu qu'elle est amoureuse de son mari, ah ben tiens, et elle ne l'écoute pas, et dans un premier temps, elle finit guillotinée. Revoyage, deuxième tentative, là, il arrive par un biais de la conviction, par qu'elle est fait guillotiner, et là, Noël se paye le luxe de faire une uchronie, puisque suite à l'intervention de Philippe d'Aubigné, il n'y a pas de révolution française, la monarchie va très bien, merci pour elle, sauf que, justement, tous les pays attaquent la France va être détruite, alors si elle avait été révolutionnaire, c'est elle qui aurait été agressive, et tout ça par le fait que Napoléon a été tout simplement un simple tailleur de vêtements et non pas l'officier qu'on connaît. Donc, livre de Noël, quand même, hein, fait une boucle causale, une relation amoureuse dans le temps et en plus une uchronie. Mot qui n'est pas prononcé, puisque à l'époque il n'est absolument pas à la mode, quand même il est tout simplement pas usité. Bon. Ce qui est intéressant dans le roman de Noël, et qui même, comme je l'ai dit, carrément audacieux, c'est que l'entreprise est un échec. Non seulement Catherine mourra dans les différents possibles, mais en plus, et là je parle du livre, celui destiné aux enfants, Philippe d'Aubigné, voyant l'une de ses cousines, qui est du futur, qui est le portrait craché de Catherine, se dit, et c'est comme ça que finit le roman, après tout ça pour ça, il y a une sorte de cynisme dans ce roman, qui est que la première relation amoureuse dont je vous parle n'est pas vraiment gratifiante. On se demande quel est le livre qu'a pu lire l'enfant qui a lu Le Voyageur des siècles, lui immédiatement après. Hein. Quel intérêt. Bon. Alors, suite à ça, donc 71, il y a le très beau roman, évidemment, Le jeune homme, la mort et le temps, de Richard Matheson en 77. Alors, un livre qui est là aussi assez intéressant parce qu'il est doublement fascinant puisqu'il concerne bien sûr le personnage du roman mais l'écrivain lui-même. Alors, dans Le jeune homme, la mort et le temps, dans le récit nous est présenté comme étant un manuscrit publié par un jeune homme, Collier. Manuscrit qui aurait été celui de son frère, Richard, mort d'une tumeur au cerveau. C'est intéressant, puisqu'il permettra au lecteur, pendant toute la production du récit, de se demander si les faits qui sont présentés sont réels ou si c'est simplement un trouble, un effet de la maladie. Bon. Le héros, Richard Collier, parce qu'il a une tumeur au cerveau, quitte la ville et décide de rouler au hasard en Californie. Et il va arriver dans un hôtel, un splendide hôtel d'inspiration rococo, qui s'appelle l'Hôtel del Coronado, hôtel où a été tourné certains Lem Show avec Marilyn Monroe, qui est explicitement cité dans le roman. Et là, il décide de passer ses derniers instants dans l'hôtel, jusqu'au moment où il va tomber en arrêt devant un portrait d'une actrice américaine qui s'est produite en 1890 dans l'hôtel, actrice qui s'appelle Elise McKenna. Bon. Richard Collier tombe fou amoureux d'elle et décide, ça, il n'a rien à perdre puisqu'il se sait condamné, décide de rejoindre Elise à travers le temps. Et pour cela, il va procéder par conditionnement psychique, par autosuggestion. Alors, petite parenthèse ou note en bas de page, Jack Finney l'avait déjà fait auparavant dans un magnifique roman qui s'appelle Le Voyage de Simon Morley, où Simon Morley, qui est un habitant du New York du XXe siècle, se retrouve par conditionnement psychique dans le New York du XIXe siècle. Il y a aussi une histoire amoureuse, mais qui était moins importante. En tout cas, Matheson a, j'en reparlerai plus tard, envisagé le roman de Jack Finney. Bref, Richard Collier s'achète des vêtements d'inspiration du XIXe siècle, élimine de sa chambre d'hôtel tous les éléments qui sont en rapport au XXe siècle, achète chez un antiquaire de la monnaie de l'époque, etc. Et par conditionnement, va réussir, après plusieurs échecs, à arriver dans l'hôtel en 1890. Et là, il tombe en arrêt devant Elise McKenna, qui le voit et lui dit « C'est vous ?» C'est remarquable. C'est-à-dire qu'elle réagit à un voyageur qui vient du futur. Alors, Elise, en fait, aurait, ce serait l'explication du récit, été avertie par un médium au 19e siècle qu'elle connaîtrait un inconnu qui viendrait changer sa vie. De fait, Richard va vouloir aider Elise qui se trouve qui rencontre des problèmes avec son imprévu et sa mère. Et hélas, à un moment où tout semble s'arranger, où Elise et Richard vont pouvoir vivre leur relation amoureuse, une pièce de monnaie du XXe siècle retrouvée dans la poche de Richard va briser son conditionnement psychique et va le réexpulser au XXe siècle où il trouvera la mort seul dans la chambre d'hôtel. Bon, magnifique histoire amoureuse de voyage en temps. Probablement une des plus belles dans le genre. Elle est très intéressante parce qu'elle fonctionne à plusieurs niveaux, et notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'on ne sait jamais si Richard a réussi son voyage en temps ou si simplement c'est un effet de sa maladie. D'ailleurs, la mort, ou en tout cas le retour au présent de Richard, coïncide, c'est très très bien écrit, avec l'avancée de cette tumeur. De notre côté, le récit est malin, au sens où il convoque le lecteur et lui donne le choix, mais on bascule dans l'explication très facilement substantive, qui est qu'il a effectivement rencontré, on veut que Richard l'ait effectivement rencontré, alors que tout dans le texte, notamment les notes du frère de Richard, dit « Je suis désolé, mais là, mon frère était vraiment pas bien, il a fallu que je coupe, etc. etc. » Tiens, petite note en bas de page, n'achetez surtout pas le roman dans le volume de la collection Lune d'encre, en grand format, parce que suite à une erreur d'impression, il y a un cahier qui a sauté, et le passage où Richard rencontre pour la première fois Elise McKenna n'est pas dans le livre. Donc il faut l'acheter en folio, mais surtout prenez-le, parce que c'est un roman magnifique. Alors, je disais que c'est à double niveau. Effectivement, Richard Collier, le personnage, porte le même prénom que Richard Matheson, l'écrivain. Et Matheson avait confié que l'idée lui en était venue lors d'une visite dans un hôtel où il était tombé lui-même, Richard Matheson, en arrêt devant le portrait de l'actrice Maud Adams, qui est une fondatrice de théâtre américain. Et donc c'est un livre qui en plus se double d'une épaisseur, d'une teneur biographique. Vraiment, à mon sens, un des plus beaux romans de voyage dans le temps. D'ailleurs, il a fait l'objet d'une très jolie adaptation au cinéma en 1980, qui s'appelle « Quelque part dans le temps », d'un film de Janos Svark avec Christopher Reeve et Jane Seymour. Et le film est vaut vraiment
le coup. Oui.
Dans le film, je ne me souviens pas. Vous avouerez que je me souviens du roman. Mais par contre, les filles à pied, c'est et dans le film. Hein, il retourne. Voilà. Mais dans le film, il est fait allusion à cette tumeur, je crois. Il n'a pas de tumeur.
De désespoir.
Oui, de désespoir, voilà, c'est ça. Exactement. Oui, oui. Il n'y a absolument pas de tumeur. Et oui, il meurt de tristesse, tout à fait. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal, le film se tient très bien. Hein. Il aurait été très difficile de l'adapter avec, en commençant avec un personnage comme ça. Là, on se coupe tout de suite avec un public. Alors que de la part de Matheson, on peut s'attendre à ce genre de choses. Voilà. De même, dans le film, toutes les références à Marilyn Monroe sont supprimées, puisque ce n'est pas le même hôtel. Alors que dans le livre, elles sont importantes, puisque en fait, elles jouent sur l'effet de séduction du lecteur du roman. On visualise beaucoup plus facilement Marilyn Monroe que Maud Adams. Personne connaît Maud Adams. C'est vraiment le roman, aussi bien dans la forme, la manière dont il est construit, que dans le fond, est un petit bijou. Bon. Des questions, ça va pour l'instant, parce que parce qu'on n'a plus trop le temps. Alors, 1986, j'en ai parlé à quelques-uns. Alors là, c'est un très grand roman, c'est Replay de Ken Greenwood, qui est hélas un auteur qui est mort prématurément. Je crois que son dernier, je ne sais pas, il n'y a plus un Replay de Ken Greenwood qui a été.
Il y a eu un deuxième roman, oui, Traitant des dauphins, je ne sais pas s'il a été traduit en français.
Ah, ben voilà. À un moment, il a été contacté suite à Replay pour scénariser Highlander. Donc, c'est terrible, hein, c'est un auteur qui a écrit un bio qui est mort vraiment jeune, hein, qui est mort très très jeune, et le livre est absolument magnifique. Alors, le roman commence de manière extrêmement brutale, puisque le héros meurt. Dès la première page, il est foudroyé par une crise cardiaque, il s'effondre, et il se réveille. Ses contemporains à l'écriture, donc ça se passe en 88, je crois. Oui, en 88, donc il s'effondre, il meurt. Et il se réveille en 1963 dans son corps de 18 ans, mais avec la mémoire de toute la vie qu'il a déjà vécue. Alors, dans un premier temps, il est évidemment stupéfait, mais il réagit très vite. Et comme il a une bonne mémoire, il va parier sur les courses, le baseball, etc. Il se souvient bien sûr des noms comme IBM, Apple, etc. Il va devenir milliardaire de manière à être dégagé de tout problème financier pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et arrivé à 46 ans, il meurt et il se réveille avec deux mémoires. C'est deux vies. Ça commence à être un peu embêtant. D'autant plus qu'il ne se réveille pas exactement au même moment, mais il se réveille quelques temps après, toujours en 63.
Oui. Et il meurt au même moment. Est-ce que c'est la même date d'abord?
Pour sa mort, oui. Par contre, pour ses réveils, non. Voilà, une légère progression. Progression qui va aller crescendo, effectivement. Donc, notamment, puisque c'est en 63, il va tenter des ce qui seront utiles quand même, puisqu'il n'y a aucune explication à faire quelque chose de sa vie. Il va tenter d'éviter l'assassinat de Kennedy, donc il va prévenir le FBI. Kennedy est arrêté, mais Lee Oswald est arrêté, mais Kennedy est tué, du coup, donc il y a un complot, etc. Et il meurt, et il se réveille une troisième fois, et là il décide de changer de vie, etc. Et un jour, en 74, il se réveille en 63, donc il y a 11 ans de rien, il y a une vie banale, et en 63, il voit un film bouleversant qui s'appelle Starcy, une sorte de, on le comprend, de mélange de Star Wars et de l'univers marin. Starcy, il en sort bouleversé, mais il se souvient, étant mort en 88, qu'en 74, il n'y a eu aucun film qui s'appelait comme ça. Donc, il va chercher à comprendre d'où vient ce film. C'est le premier changement auquel il assiste. Et derrière ce film, il y a une femme qui s'appelle Pamela Phillips et qui elle-même est une voyageuse dans le temps qui connaît des replays, des répétitions. Et ils vont donc vivre ensemble dans un premier temps. Ils ont enfin trouvé l'âme sœur. Chacun meurt à sa date, hein, de nouveau, et ça recommence, sauf que du fait du décalage de leur existence, n'ont pas le replay au même moment, et dans la vie suivante, elle ne le reconnaît pas. Je vais devoir la séduire, etc. Bon, je ne vous raconte pas l'ensemble. Ce qui est fascinant dans ce roman, c'est qu'il y a voyage en temps, mais il y a un voyage en temps qui est une boucle, en fait, qui est un présent continuant répété. C'est une espèce de structure en épicycle, puisque il y a un voyage en temps, et à l'intérieur de ce voyage en temps, il y a des voyages en temps individuels. Chacun a son replay différent, ce qui fait que nous, on suit le point de vue du héros, pas de son amour, mais on se rend compte que, en fait, il doit reconquérir à chaque fois l'objet de son amour, voire même ne pas la conquérir, parce que des fois il échoue, dans certaines vies il échoue, d'autres fois il en a marre, d'autres fois il aspire à une vie sans passion, donc il épouse quelqu'un d'autre. Et c'est donc là une relation techniquement de voyage en temps, mais qui n'est pas de la même personne exactement au même moment, mais de plusieurs passés successifs. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des passés qui changent, ce sont des espèces de passés parallèles, puisqu'ils sont vécus de manière autonome à chaque fois. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent, elle, puisqu'elle l'a son replay plus tard, ne sait pas que lui est aussi un voyageur dans le temps, à chaque fois. Et puis la fin est remarquablement conduite, puisqu'on se rappelle qu'il se réveille de plus en plus tard, en fait. Il va bien arriver à un moment où il va se réveiller à l'âge où il est mort. C'est absolument stupéfiant, c'est un grand roman. Là, vraiment, je ne comptais pas vous en parler au début, parce que techniquement, c'est bien un voyage en temps, mais pas selon un processus linéaire, c'est plutôt un processus en boucle. Mais il se trouve que, en voyant la librairie en bas, je me suis dit, il est magnifique, c'est vraiment... il y a un avant et un après la lecture de Ripley, comme il peut y avoir un avant et un après la lecture du jeune homme, la mort et le temps. Bon. Alors, en 2003, de Audrey Liefenegger, un roman qui s'appelle Le temps n'est rien. Là aussi très original, peut-être légèrement en dessous des autres, mais remarquable aussi, qui raconte l'histoire de Henri et de Claire, Henri de Tombe et de Claire. Alors, Henri a une singularité génétique qui fait qu'il voyage dans le temps, involontairement. Son premier voyage a lieu quand il est âgé de 6 ans, on ne comprend rien, absolument rien de ce qui arrive, et il va voyager dans le temps sans pouvoir contrôler son voyage, ni même la direction. Il voyage dans le passé, il voyage dans le futur, il voyage même à quelques instants près dans le présent, parce qu'à un moment, il est presque synchrone avec lui-même. Donc, il se voit régulièrement, il s'informe régulièrement, par exemple, il aide le jeune Henri à comprendre ce qui lui arrive, ce qui est donc le nouveau boucle causal. Et il va rencontrer l'amour de sa vie. Alors, le problème, c'est qu'il voyage nu, il ne peut pas emporter d'objets sur lui. Donc, c'est supposé des stratégies à chaque fois pour ne pas tomber, par exemple, en pleine Manhattan, etc. Donc, il voyage sans rien. Et la première fois, il apparaît à Claire quand elle a 5 ans. Donc, lui, sait que c'est la femme avec qui il va partager sa vie, avec laquelle il va se marier, avec laquelle, après beaucoup de problèmes, ils vont avoir un enfant, notamment beaucoup d'hésitations, parce qu'il va craindre Henri que leur enfant voyage lui-même. Donc lui, il sait que cette fillette qui a 5 ans, c'est sa future épouse. Elle, elle ne le sait pas. Heureusement, Claire est une enfant remarquablement intelligente et elle voit simplement un personnage curieux. Henri a beaucoup d'humour, ce qui quand même allège la situation. Et ils vont se suivre comme ça. Lui suit Claire dans sa progression, il devient adolescente, etc. Mais en même temps, puisqu'il voyage en futur, il la voit mariée avec lui, il la voit, etc. Et retournement qui est remarquable, quand Claire, qui est avertie depuis l'âge de 5 ans qu'elle va épouser Henri, rencontre Henri pour la première fois, si on rétablit la chronologie, Henri ne la reconnaît pas cette fois-ci. Puisque, à l'âge de 22 ans, lui n'a pas rencontré Claire. Parce que ses voyages ont commencé à partir de ce moment-là. Bon. C'est très très bien. C'est peut-être à certains moments un peu long. Il y aurait eu quelques coupures à faire. Mais c'est un très très beau livre qui là aussi est original. Puisque c'est une espèce de temps stochastique qui est absolument pas linéaire. Qui ne demande pas trop de difficultés d'attention au lecteur, mais qui en demande quand même. Il faut comprendre à un moment qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on a compris, après, ça ne pose aucun problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et qui n'est pas dans les romans précédents, c'est que tous les Henri et toutes les Claires ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a des Henri très désagréables avant qu'il ne rencontre Claire, parce que de son point de vue, il ne rencontre que quand il a 22 ans. On lui dit qu'elle en est persuadée en plus que c'est l'amour de sa vie à l'âge de 5 ans. Il faut qu'elle attende. Est-ce qu'elle doit sortir avec d'autres garçons est-ce qu'elle doit croire qu'elle est amoureuse de d'autres garçons C'est une remarquable réflexion sur le déterminisme, la liberté, sur le choix, etc. Très très beau livre. Et puis ensuite, le temps n'est rien, donc celui-ci d'Audrey Niffenegger a été adapté en 2009, ça s'appelle Hors du temps, avec dans le rôle d'Henri, Eric Bana, et dans le rôle de Claire, Rachel McAdams. Alors ensuite, 2013, dans une couverture immonde, en français, mais immonde, hein, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils aient passé au département graphique du seuil, ils ont dû se dire, celui-là, vous me le flinguez, hein, il ne faut pas qu'on l'achète. La couverture est abominable, pourtant le livre est très bon. Donc 2013, un roman qui s'appelle Les vies parallèles de Greta Wells. Bon, Wells... comme l'auteur, à mon avis, c'est pas un hasard. Et le livre est de Andrew Schoengrier, qui est d'ordinaire un écrivain de littérature générale. Andrew Schoengrier, G-R-E-E-R. Alors, encore autre chose dans les voyages en temps. Les unes sont très différents hein, dans les relations amoureuses dans voyage en temps. Ils sont vraiment très différemment. Là, on suit les filles parallèles de Greta. Donc trois Greta, une en 1918, une en 1941 et une en 1985. Le problème, c'est que c'est la même. Donc en fait, il n'y a pas d'explication logique à comprendre. Il y a simplement à imaginer qu'en fait, on a affaire à des temps parallèles et que les individus que vous êtes... vous auriez été même il y a 40 ans ou il y a 60 ans. C'est le contexte qui change. Donc on a trois Greta Wells qui techniquement sont des individus différents, à ceci près que c'est la même personne.
Vous n'avez pas raison. Connaissance des vies parallèles ou pas ?
Alors c'est ça qui est très très bien. Au début, je crois que c'est suite à une anesthésie chez le dentiste, ou... quelque chose du genre, autrement dit, cherchez pas, hein, c'est pas là que l'intérêt du roman. L'une d'elles, celle de 85, se réveille en 1918. Bon, elle est évidemment, on imagine, stupéfaite, son environnement ne pose aucun problème. Elle est habillée, coiffée comme elle doit l'être, et elle ne comprend rien. Mais il se passe la même chose, parce qu'en fait, elle tourne pour celle de 41 et pour celle de 85. Et ce qui est très très bien, c'est que la répartition de Greta et de son environnement est identique à chacune des époques. Par exemple, son frère gay, qui le vit bien en 85, le vit douloureusement en 1918 et ne veut même pas en entendre parler à cause de la guerre et de son devoir militaire qu'il ressent en 41, mais c'est le même individu. Donc elle doit se positionner différemment. Mais à chaque période, les Greta tournent. Et donc chacune des Greta hérite de ce qu'a fait celle qui l'a précédée à l'instant d'avant. Donc celle de 1918 se retrouve en 41, celle de 41 en 85, celle de 85, et ça tourne. Donc chacune va se retrouver à des époques différentes, ce qui va leur permettre à chacune d'envisager une nouvelle existence, puisque en fait, on se rend compte très vite que aucune des trois, dans l'état actuel, dans son présent de référence, n'est heureuse. Et la conclusion est assez magistrale, puisque je vous le dis pas, mais ça s'arrangera plutôt bien, pas bien, plutôt bien. Et c'est très bien parce que, en fait, celle de 85 est complètement déplacée en 1918, mais complètement. On commence même à s'inquiéter, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'il va peut-être falloir l'emmener en maison de repos, mais très rapidement en plus. Celle de 1918 projetée en 85 est inquiétante aussi, parce qu'elle était le support de la communauté d'un tel autre Greenwich Village, et maintenant elle est effacée, elle est timide, est-ce qu'il est tout le monde s'inquiète, est-ce que ton frère est malade, dis-le, etc. C'est les années 85, c'est très important, hein, aussi, le contexte. Celle de 41, elle fluctue parce qu'elle est justement entre les deux. Et la relation amoureuse qu'elle a, avec le même individu, n'a pas le même effet selon qu'elle est vécue par celle de 18, de 41, de 85. Par exemple, l'homme dont elle est amoureuse en 85 est désagréable. C'est un personnage qui est du 85 et désagréable, mais la cause et l'effet, on ne sait jamais. Est-ce qu'il est désagréable parce que sa nature est de l'être, ou est-ce qu'il est désagréable parce qu'il vit avec cette Greta? Par contre, ils vont fusionner en 1918 avec celle de 18. Parce qu'elle y voit un homme solide, qui la protège, etc. Alors que celui, son équivalent de 18, est faible, lâche, ne veut pas s'engager, etc. C'est vraiment très intéressant, c'est très original. Voilà, voilà pour le contexte global. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un paradoxe pour finir, on est tranquillement dans les temps, un paradoxe qui était posé par le philosophe Tobias Hochstatter, qui est très bien, qui est le paradoxe du mari temporel. Bon. Imaginons, c'est peut-être le mari ou l'épouse, imaginons quelqu'un qui a été follement amoureux de sa femme, je prends le mari temporel, hein, pour faire simple, je suis transposé, follement amoureux de sa femme, mais le mariage est devenu sombre, terne, les aléas de la vie, etc., etc. Mais il tient à la relation amoureuse telle qu'elle existait dans le passé. Donc, ni deux, c'est ce qui est bien avec les exemples philosophiques, c'est que côté intendance, ce n'est pas un problème. Ni deux, il construit une machine à voyager dans le temps, parce que tout mari un peu responsable fait, hein, c'est évident. Voilà. Et il retourne dans le passé pour retrouver celle qu'il aimait et celle qu'il aimait. Bon, le problème, c'était déjà son mythe d'époque. Ni deux, il le tue, il n'y avait pas paradoxe, ça c'est pas un problème. Et donc, il se présente à sa femme. Seulement, il y a 15 ans ou 10 ans qui sont passés. Peut-être qu'il a pris du poids, peut-être qu'il a perdu ses cheveux. Comment va réagir la femme en voyant ? Ben, normalement. Et c'est ça qui est fascinant dans le paradoxe tel que le pose Schlatter, c'est que, imaginez que vous quittiez la personne que vous aimez le matin et qu'elle rentre le soir en ayant pris 10 kilos et des cheveux en moins, vous n'allez pas dire « Non mais dis donc, t'aurais pas fait un voyage temporel pour remplacer ton moi du présent et me reconquérir ?» Non. En fait, votre esprit va tout simplement reconfigurer le réel pour l'adapter à la nouvelle vision que vous avez, et qui est que quitte à ce que ce soit une hallucination, une vraie inquiétude quant à votre état mental, vous allez vous dire, non, j'ai pas remarqué que t'avais pris du poids, que tes cheveux ont bougé, etc.
Et en plus, il y a moyen d'affirmer ça quand même.
Oui, mais qu'est-ce qui se passerait? Vous allez croire que la personne a pris 10 ans en une journée, ce qui est impossible à accepter, ou est-ce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Comment ça se fait que je ne remarque maintenant? La solution la plus logique, comme quoi la logique ne s'adapte pas forcément au réel, c'est de vous remettre en cause vous.
Oui, mais du coup, souvent, lorsqu'on remarque quelque chose, on est très en retard par rapport à la réalité.
Oui, en plus, bien sûr.
La façon de remarquer est souvent un décalage par rapport aux événements.
Bien sûr.
Donc ce serait naturel de se rendre compte brutalement que quelqu'un a changé. Parce que personne ne change brutalement, c'est évident. Mais notre façon de remarquer que les gens changent est nécessairement brutale.
Bien sûr, oui, c'est très juste. Et puis elle est, dans tous les cas, tardive. Il faut qu'il y ait une reconnaissance.
Ce qui est typique, c'est les enfants. On a toujours l'impression que les enfants réussissent tout d'un coup quelque chose, se mettent à parler. Alors ça fait très longtemps en fait, qu'ils l'ont acquis. Mais on a perdu du temps à réaliser qu'ils l'ont acquis. Et lorsqu'on réalise qu'ils l'ont acquis, ils sont déjà en notre acquisition, ils sont déjà beaucoup plus loin sur la.
Ouais, mais là, on remarque quelque chose parce qu'on l'a vécu, on l'a pas perçu parce que le changement est dégradé. Là, on parle d'un changement brutal. Alors, je pense qu'après, il y a une limite. Il y a quelqu'un qui prend un an, une journée, on ne remarque pas, deux ans, trois ans, mais après, bon, c'est une question de combien de cheveux on est chaud. Mais les 10 ans d'un coup, on a tendance à dire, non, c'est un truc qui choque. Mais après, ouais, je sais pas, mais c'est la même question. Il y a un truc intéressant, c'est quelqu'un qu'on a connu tout le temps avec une moustache et une barbe, qui s'arrête brutalement.
Oui.
Quand j'ai un peu de mon père avec la moustache pendant 8 ans, il a rasé d'un coin. Il disait, les gens qui le regardaient, ils disaient, t'as un truc de changement.
Voilà, mais voilà. Oh oui, oh oui.
C'est long, c'est pas 10 ans.
Mais en fait, je pense que l'intérêt de Schlatter, c'est l'intérêt de la moustache. C'est-à-dire que l'esprit est fait pour s'adapter au réel à n'importe quel prix. Quelles que soient d'ailleurs les conditions de réalisation, comme vous l'avez dit, jusqu'à même s'auto-convaincre qu'il a raison. C'est par exemple le cas des nécessités de conscience, alors que la personne voit parfaitement. Là, il y a un effet de persuasion. Quoi qu'il en soit, donc pour reprendre les vidéos que je vous ai proposées, alors. Tout de même, si le voyage de Simon Morlaix, même si la relation amoureuse sous la vigilance de Jean-Daniel n'est pas spécialement sous du roman, il y en a une, hein, un homme amoureux d'une
femme. Des relations amoureuses avec New York.
Oui, oui, voilà, oui. Puis en plus, dans le voyage de Simon Morlaix, il y a quand même une, hein, c'est vrai que. Mais il ne connaît pas la femme dont il va tomber amoureux, tandis que dans tous les autres cas qu'on a vu ensemble, le voyage est fait intentionnellement, ou en tout cas, s'il n'est pas fait intentionnellement, il y a reconnaissance de la personne. Mais bon, il y a quand même le voyage de Simon Morlaix, le voyageur des siècles de Noël Noël. Très honnêtement, hein, si vous le voyez en. Je l'ai revu à l'occasion pour préparer ce cours, si vous le voyez en bibliothèque, prenez confiance, c'est un petit bijou. Hein. Et la série télé était très très bien aussi. Des audaces, si vous permettez tout. Par exemple, ils sont attaqués par des sans-culottes, donc ils font des prises de judo. C'est agréable. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un dessinateur de BD, scénariste, Gérard Guéraud, qui disait que ça y avait fait peur à l'époque. Moi aussi, ça m'avait fait peur. C'était bizarre. en plus d'avoir dans un miroir. Enfin bon, vraiment ton. Du coup, on a parlé après de Le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson, qui était vraiment très, très beau. Et oui, voilà ce que j'avais oublié. Dans l'adaptation cinématographique du roman, le personnage du médecin joué par Christopher Plummer s'appelle le docteur Finet. Donc Matheson, qui est au scénario du film, paye sa dette à l'égard du roman Le voyage de Simon Bourlet. Ensuite, replay, là, alors là, précipitez-vous, jetez-vous, exigez du libraire demain, nous fournisse un exemplaire parce que ça vaut vraiment le coup. Je pense, alors, le replay a été optionné longtemps par le cinéma, ça ne s'est jamais fait, et je pense que le film Un jour sans fin, Le jour de la marmotte, est une.
Oui, je pensais directement.
Vraiment. Parce qu'on sait hein, que le scénario de Ripley a circulé à Hollywood. Hein. Tom Cruise, non, Brad Pitt, à un moment, on l'avait même acheté. Ça n'a jamais été fait, mais bon, ça a été lu. Hein.
Ah, ça ressemble beaucoup.
Oui,
une journée de Ripley, ça a aussi, etc. Et le but est le même, c'est aussi de séduire les femmes, de réussir à.
Oui, absolument. Et en plus, ça reprend même des cas de figure. C'est-à-dire que dans Ripley, dans le film Un jour sans fin, par exemple, il apprend à jouer du piano, ce qui suppose. Parce que dans la séquence suivante, on voit
jouer de notes
après les cours, et juste après, oui, voilà.
Ça va, on le voit qui passe, il apprend.
Voilà. Et dans Ripley, c'est pareil. Alors, c'est toujours délicat dans ce genre de présentation de roman, il ne faut pas en dire trop, mais il y a quand même des trouvailles dans Ripley à un moment. Lorsque le couple donc, doit se retrouver, se reconquérir à chaque fois, comme dans le film, hein, se retrouve dans une de leurs vies. Il passe, c'est en 1963, il passe dans le New York Times et dans tous les grands organes de presse américains l'année suivante. Ceux qui ont 63, ceux qui ont connu la prise de l'ambassade américaine de Téhéran, ceux qui ont connu Star Wars, etc., contactez-nous, je donne un numéro de téléphone et je ne dirai pas plus, mais
c'est vraiment c'est l'auteur.
Ken, Karen Grimwood, Grimwood. Dans la même veine, mais c'est vrai que c'est là aussi la relation amoureuse. Mais il n'y a pas à proprement parler voyage en temps, donc on est un petit peu hors sujet, mais qui vaut le coup, parce que ce sont deux temps parallèles, c'est que certains connaissent L'échange d'Alan Brenner, qui est très beau aussi, donc chez Folio, un petit bonus, Alan Brenner, BRE. Il n'y a pas voyage en temps, hein, mais bon, BRE2NERT, L'échange. C'est pas voyage dans le temps, donc on quitte le sujet, mais c'est deux temps parallèles. Donc dans le temps 1, il y a un personnage qui est agent d'assurance dans une petite ville à la Spielberg, hein, tranquille, tout le monde se connaît, etc., et qui s'ennuie, et qui se dit, donc il est marié à l'amour, à son amour de lycée, il s'ennuie, il se dit, tout de même, avec le talent qu'on avait trouvé au club théâtre du lycée, il aurait pu devenir comédien. Deuxième, une star de Broadway, un acteur remarquable, cocaïné jusqu'aux yeux, qui gâche sa vie, qui est amer, qui se dit, au nom de la gloire, j'ai tout laissé tomber, j'étais tellement bien dans ma petite ville avec mon amour de lycée, j'en préférais vendre des polices d'assurance. Et ils vont procéder à l'échange. Peu importe, il n'y a pas du tout de. Ils se croisent dans la rue, puis ils décident de changer. Et c'est très bien parce que l'histoire d'amour avec ce qui est évoqué ne va pas être vécue de la même façon, évidemment. Mais surtout, c'est un peu le paradoxe du mari temporal. Tout le monde s'adapte au nouveau moi. C'est-à-dire que l'acteur qui devient agent d'assurance, c'est vraiment un grand acteur, bah, il joue à l'agent d'assurance tout de suite. Et en plus, comme il retrouve son amour de lycée, elle est heureuse, parce que de nouveau, leur passion renaît. Tandis que celui qui est agent d'assurance, qui se retrouve à Broadway, c'est plus difficile, mais comme il est cocaïné jusqu'aux yeux, il va dire, bon, ben, je fais une cure de désintox, je disparais pendant 2 mois, tout le monde comprend, c'est une star, et là, il va prendre des cours intensifs de comédie, etc. C'est très très bien. Mais il n'y a pas à proprement parler voyage en temps, ce sont deux temps parallèles. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait après Le temps n'est rien, oui, avec cette espèce de voyage stochastique qui est très très bien. Ouais, et le voyage de l'Ouest, ne soyez pas freinés par la couverture. Voilà, il nous reste, ouais, c'est bon, 6 minutes, est-ce que vous avez des questions
C'est pas le voyage en temps, en vraiment intitulé, ça m'a fait penser à un des personnages d'Hyperion, le consul qui est.
Voilà, je délègue là, sur Hyperion.
Ça fait trop longtemps.
Ouais, pareil.
Elle me dit, vous voyez ce personnage qui en fait, avec les lois de la physique, en fait, il connaît une femme, et comme lui, il part régulièrement en voyage et qu'il voyage à des vitesses supraminiques, en fait, quand il revient, lui, il a l'impression que ça a tourné de 6 mois. Mais en fait, il voit finalement la femme de son amoureuse qui a 4 moments de sa vie. Mais il la voit à chaque fois, elle prend 10 ou 12 ans.
C'est joli,
et voilà, c'est sûr, c'est un intérieur, c'est une des nouvelles concernant les personnages. Mais ça m'a fait, quand j'ai vu l'intitulé, j'ai pensé à ça. Mais c'est pas le voyage dans le temps.
Bah, du coup, oui, c'est très juste. Dans la même veine, vous avez le même cas de figure, on serait vers le futur avec La guerre éternelle de Joel Donan, où chaque fois qu'il est rapatrié. Sur Terre, pour ses nombreux coups, il retrouve l'objet de son amour, mais du fait effectivement de la relativité du temps, il coïncide. Ouais, c'est vrai qu'il y a le futur. Ouais. Et justement, ce qui était intéressant, c'était de privilégier, me semble-t-il en tout cas, le voyage dans le temps vers le passé, parce que par définition, toute relation amoureuse telle qu'elle est vécue, une relation de voyage vers le futur. Donc, maintenant, c'est plus de femmes dans le passé.
Du coup, d'ailleurs, les relations sont complètement déséquilibrées, parce que enfin, c'est pas forcément le cas dont on a parlé, mais on parle de quelqu'un qui en fait a eu l'occasion de scruter l'intégralité de la vie de la personne. C'est vrai, parce que sa vie est terminée quand ils vont dans le passé. Alors que quelque part, un des aspects d'amour, par exemple, c'est aussi l'aspect de la découverte.
Absolument. Et d'ailleurs, tout à fait dans Replay, à un moment, du fait de la non-coïncidence de leur propre replay, hein, leur propre tour, elle va comprendre, en fait, il va la séduire alors qu'elle ne sait pas qui il est. Et quand arrive le moment de son propre replay à elle, que donc elle le reconnaît, elle va lui dire, mais tu m'as trompé, en fait, tu m'as séduit en sachant qui j'étais, etc. Et leur relation se brise instantanément. Parce qu'elle a compris comment, comme dans le film d'ailleurs Un jour sans fin, qu'il n'a pas suivi par ses qualités, mais par les habitudes qu'elle avait. Oui, tout à fait. De la même façon, hein, ce qui est intéressant dans Le Voyageur des siècles de Noël Noël, c'est que c'est un amour unilatéral. C'est très, très intéressant aussi. À aucun moment. La jeune aristocrate Catherine d'Audigny n'est amoureuse de lui à aucun moment. Donc là aussi, vous pouvez inventer une machine à voyager dans le temps, mais bon, si la personne n'est pas amoureuse, c'est comme ça. Hein. Et la fin est vraiment curieuse, elle est amère. Une remplace l'autre. On prend sa cousine, c'est le sosie. Et vraiment, la fin du roman, c'est tout ça pour ça.
Cela dit, c'est le fait qu'il connaît de façon historique, mais il est tombé amoureux d'une apparence et d'une histoire,
oui,
mais il ne connaît pas la personne. Oui. On peut lire des romans d'histoire, etc. On ne sait pas comment les gens réfléchissent, on ne sait pas comment ils réagissent forcément, on ne connaît pas par rapport aux événements qu'ils ont réellement vécu. Donc cela dit, effectivement, c'est plus un coup de foudre qu'amour, ça va être la passante de Racine, ça va être la même chose.
Quoi. Oui, voilà, exactement. Bah, d'ailleurs, littéralement, il tombe amoureux d'une image, c'est ce qu'il voit dans le miroir, qui capte. Les représentations du passé, et il est séduit par sa cousine, par l'image. Oui, tout à fait. Alors qu'elle est amoureuse de son mari, le comte de Dumont. Et dans le roman, par contre, dans la série télé, c'est Adult Swim, c'est Les Amoureuses de Nuit. En fait, ce qui est curieux, c'est que la série télé est plus politiquement correcte que le Bibliothèque verte, quand on y pense. C'est curieux. Alors, d'autres, je vois pas, on aurait loupé, non, Voyage en temps.
Plus ancien,
ouais.
Une porte sur l'été. Pour les règles.
Ah oui, bien sûr.
Mais comme tu as dit que tu l'as mis en 1970, sinon, ça, je crois que ça doit être disponible en folio. Ça peut être un peu limite. Aujourd'hui, ça, c'est un peu limite quand même, parce que c'est pareil, c'est le gros adulte qui tombe amoureux d'une fillette de 5 ans. Alors il y a des manipulations dans le temps pour qu'ils finissent par se retrouver majeurs en même temps.
Alors que dans le.
Donc la morale est sobre.
Dans le temps n'est rien, c'est à aucun moment gênant, parce qu'il y a eu déjà plusieurs voyages avant, et donc on sait qui est la, nous, la petite fille. C'est dans l'ordre d'apparition pour elle, personnage, elle le voit pour la première fois quand elle a 5 ans, mais le lecteur a déjà eu 2 ou 3 chapitres où on a vu Claire à 18 ans, à 40 ans, etc. C'est pour ça que dans le temps n'est rien, le lecteur doit comprendre en fait que les éléments nous sont donnés de manière désordonnée, mais on s'y retrouve assez vite. En fait.
Ça reste que le mec qui apparaît complètement à poil dans la chambre du film.
Non, il apparaît, ça arrange peu de choses, mais il apparaît dans un terrain vague. Et elle pense d'abord que c'est une sorte de fantôme, pas embêté, justement parce qu'elle est. Puis bon, c'est absolument clair de ce point de vue-là. D'autant que celui est drôle, il est attachant à ce moment-là, donc il désamorce, parce que lui est gêné en fait. Donc il désamorce la situation, puis il est derrière un tablier, etc. Puis elle va prendre l'habitude, justement. Déjà, le fait de voyager dans le temps crame complètement son énergie, donc il doit manger. Enfin, ce qu'il doit faire, c'est tourner ses nuits. Donc, elle dit qu'elle a un imaginaire, etc. Donc elle prend des choses à manger, des vêtements, elle fait du tout imaginaire. Plus tard aussi, dans sa chambre d'étudiant, toutes des stratégies sont mises en place.
Par contre, est-ce que du coup, il est amoureux d'elle à chaque époque, ou est-ce qu'il est amoureux de la première de la projection qui se fait d'elle plus tard?
Ben, en fait, il est amoureux d'elle. Lui n'a aucune hésitation dans le roman, parce que lui, si on reconstitue sa linéarité temporelle, lui, il la connaît à 22 ans. Il la rencontre, lui, de son point de vue, pour la première fois à 22 ans, elle en a 17, je crois, 18, dans une librairie. Mais elle, elle sait qui il est.
Je me pose la question de savoir si est-ce qu'un autre moment, il aurait été un modèle possible. Est-ce que c'est juste à ce moment-là que.
Oui,
est-ce que la personne que j'aime, je l'aurais aimé si j'avais fait 5 ans avant ça.
Oui, voilà. Par contre, ce qu'on évoquait dans Un jour sans fin et dans Replay, c'est que elle sait qui il est, connaît ses goûts en musique, en littérature, elle sait. Exprès qu'elle va dans cette librairie, parce qu'elle sait qu'il la fréquente.
Elle le connaît mieux que lui-même, c'est vrai.
En fait, oui. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y a un renversement. C'est bien lui qui voyage en temps et qui en sait plus de son point de vue, mais c'est elle qui maîtrise en fait la relation amoureuse, puisque elle la vit linéairement, en fait.
J'essaie de réfléchir dans la littérature plus récente. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ce genre de cas. Alors peut-être parce qu'on a beaucoup plus des donc du coup on tombe plus facilement dans le bachelet des paradoxes qui veulent être longtemps. Mais j'ai pas dans les livres récents de l'histoire du style de relation des voyages.
Bah là on a dépassé, mais ce qui plombe un peu, me semble-t-il, moi le voyage en temps, c'est uchronie, ça quand même ça devient un peu lourd, ça bloque toutes les possibilités temporelles, c'est un peu dommage, mais il faut passer le temps de uchronie et revenir à des vrais récits de voyage en temps. C'est vrai que ça, la problématique du temps à SF en ce moment, elle est bloquée par l'uchronie. Même les mondes parallèles, il n'y en a plus. Enfin, c'est notre
Après, les mots, oui, enfin, les mots parallèles, c'est une chronique souvent du groupe.
Ah, ben, dans. On parlait de Dick la dernière fois, dans L'Évêque du Château, il n'utilise jamais de mots chroniques, hein. Même dans sa correspondance, il parle de mots parallèles.
Hein. Oui, ben, cela faudrait se poser la question quand le terme uchronie, qui me semble-t-il, est une invention francophone,
oui.
Quand a-t-il été connu tel quel?
Oui.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Bah, le maître du château, c'est 1962 ou 3, je crois.
Ouais, ouais.
Là, il parlait de alternate realities.
Oui, oui, voilà.
C'était le mot qu'il connaissait, c'était le mot usité, quoi. Hein.
Et en ce sens, oui, pas nous-mêmes, on n'utilise absolument pas le mot.
Et en tant que tel, c'est pas une chronique dans le sens qu'il y a communication entre les deux. Dans une chronique, ça arrive.
Là, je maîtrise mal le sujet, comme je les ai dit tout à l'heure. Ben, savoir qu'est-ce qui différencie une chronique d'une univers parallèle, moi personnellement, je n'ai jamais vu de différence.
Ouais, moi, enfin, après, je sais pas si c'est canon, mais pour moi, l'Uchronie, c'est un récit. Donc, on prend notre monde actuel, on prend une ligne temporelle, il y a un endroit, on dit si, on change un détail et on voit ce qui se déroule après.
Ouais, si
le monde parallèle, il y a deux lignes, quoi.
Il y a plusieurs
lignes, ça peut être l'image de truc.
Oui, mais il y a peut-être eu un point de divergence, donc c'est
rempli. Oui, mais en soi, ça aurait un problème parallèle que ne pas y avoir du tout de question de convergence ou de divergence.
Oui, c'est ça, le monde parallèle, ils sont là. L'Uchronie, effectivement, ça peut être. En soi, l'Uchronie pourrait être sous l'ordre du monde parallèle, mais où les autres mondes parallèles.
Dans les mondes parallèles, le premier à en parler, de toute façon, c'est Leibniz, à la fin de la théodicée. Dans les mondes parallèles, les mondes voisins peuvent être des uchronies, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, il y a de moins en moins de convergence possible, en fait.
Bah oui, ça c'est. Plus ils sont proches, plus le SI a une portée faible, et plus on s'écarte.
Voilà, ouais. Mais au point qu'à un moment, il n'est même plus question de comparer.
Oui.
Il peut y avoir un peu des poissons. France, un monde parallèle.
Mais, sauf que quelque part, c'est peut-être juste qu'au niveau temporel, on a ce petit déclic qui est juste intervenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt.
Oui. Ou alors qu'il n'y avait pas du tout les mêmes causalités. C'est ce que Étienne Klein abordait avec les Brahms. Ce sont des univers parallèles qui n'ont strictement rien en commun, ni temps, ni éventuellement même le volet physique. Si on le Big Bang, c'est pas brûlé de la même façon, on peut y supposer, en disant dans les théories, que les volets physiques ne sont même pas les mêmes, carrément. Sauf la gravité, les autres peuvent changer.
Oui, encore.
Donc, là, il faut lire le dossier avec Greg Egan dans la dernière. Il résumé le bouquin, c'est tout à fait. Si vous voulez voir des paraboloïdes hyperboliques, des histoires d'insectes d'extraterrestres orthogonaux, etc.
Ben, merci, je ne vais pas vous bloquer plus. Merci beaucoup.
Merci.